Mira, ahí va Alberto, ahí va Alberto. Cambio de ritmo de Alberto Contador. Ahí la parte Andy final. Schleck. Como una moto,
Nibali, 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 andato.
Nibali, prova Nibali.
Grandissimo Vincenzo.
Metri. Dietro si voltano, dietro si voltano.
Lâchez les watts. Oh là là, mais c'est pas... Mais Lenz, sort de ce corps.
Bonjour à tous, c'est Luca et bienvenue pour un nouvel épisode by Dossard13. On se retrouve aujourd'hui pour notre second épisode sur tout simplement les débriefs de nos différentes previews qu'on avait effectuées en début d'année sur nos One to Watch, les gens à surveiller dans les différentes équipes. Avec Guillaume, on en avait sélectionné un chacun. On a vu dans le premier épisode que tout ne s'était pas passé comme prévu. Ouais, dans le second, c'est un peu pareil. Il y a des bons coups, il y a des moins bons coups. Mais au final, c'est toujours la bonne ambiance. Et bien sûr, comme d'habitude, comme notre habitude, comment tu vas aujourd'hui, Guillaume ?
Ça va, je suis content de faire cette deuxième partie. Je m'attendais... Ouais, je me suis dit, ma première partie, moi, était pas trop mal. Donc la deuxième, peut-être pareil. Il y a quelques disaster class, mais aussi des belles réussites, donc comme toujours, c'est agréable de faire cette petite conclusion de 2023.
Allez, parfait, je te propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. On va évoquer aujourd'hui une équipe qui a fait parler beaucoup d'elle en cette année 2023. On va parler des abeilles hollandaises, on va parler de la Jumbo, où on avait sélectionné tous les deux recrues, et surtout deux potentielles surprises, j'ai envie de te dire. Mais dans une équipe où il y a déjà beaucoup d'extraterrestres, on s'était dit on ne part pas sur les plus connus. On a peut-être pu partir sur un Cus, mais je te laisse débuter par ton petit britannique.
Ah ouais, c'est vrai que j'aurais pu faire Cus, mais bon, c'était l'année d'avant, dommage pour moi. Alors moi, j'avais choisi Thomas Glog. Moi je dirais One to Watch à moitié validé, et il avait commencé très fort sur le Tour de Valence avec une belle 6ème place au général. Il a même fini 2ème de la 4ème étape derrière Tao Geoghegan-Hart et devant des gros noms comme Chicone ou Landa, donc franchement je me suis dit ok, là j'ai fait un bon choix. Et donc il poursuit sa saison d'apprentissage, correct 11ème place sur le classement général du Tour de Romandie, et après évidemment il sera coéquipier de Roglic sur le Giro. Il le terminera sans grand résultat, mais ouais, il a fait son taf de coéquipier. Et bon, malheureusement, on ne le reverra pas cette saison car il s'est fait renverser par une voiture en août et il a dû stopper net sa saison. Dommage parce que je pense qu'il avait de la place sur des courses d'une semaine pour prendre le rôle de leader vu que les trois cracks étaient sur la Vuelta. Mais bon, pour moi, ça reste quand même validé parce qu'il a fait une très belle saison d'apprentissage. Il a réussi à saisir sa chance quand il pouvait et il frappe discrètement à la porte de Jumbo, mais il est clairement là.
Ah non, je suis d'accord avec toi, très bon choix, très bonne saison et des belles choses en prévision pour les années à venir. Le problème c'est que c'est un énorme talent dans une équipe où il y en a déjà énormément, donc à voir s'il arrivera à faire sa place au sein de l'équipe ou s'il devra la quitter pour pourquoi pas tourner du côté d'Ineos dans le royaume des Britanniques.
C'est exactement l'équipe à laquelle je pensais.
De mon côté, j'ai sélectionné également un coureur qui venait d'arriver après une saison XXL. C'est Dylan Van Baarle. Il quitte, lui, Ineos, vainqueur de Paris-Roubaix. Il retourne à la compétition en 2023 avec l'Umlop qu'il remporte. Et tout simplement, pas mal de malchance au point de devoir tirer un trait sur le Tour des Flandres vu qu'il avait chuté quelques semaines avant. Il a été essentiel dans les triomphes de Vingegaard et Kuss respectivement sur le Tour et la Volta. Il aura parfaitement joué son rôle d'équipier de luxe, mais pour moi ça reste un talent gâché et une saison forcément en deçà de son talent. Enfin, il s'est converti en rôle d'équipier, il l'a très bien fait, mais Dylan Van Baarle, on pouvait s'attendre à bien plus. Il avait un rôle de leader précédemment, là maintenant il se mue en tant qu'équipier même face à des Christophe Laporte ou à des Wout Van Aert, et du coup il joue un rôle aussi d'équipier de luxe sur les grands tours parce qu'il c'est un coureur qui passe très bien les bosses, mais malheureusement c'est décevant quand tu vois l'étendue du potentiel et du talent du bonhomme.
Ah, l'an prochain on le verra peut-être jouer un top 10 sur un grand tour à ce rythme là, écoute.
Bah, quand on sait que Wout Van Aert va viser le général sur le Giro, bah, difficile de laisser la place à un Van Barle pour faire quoi que ce soit, quoi.
Ouais, difficile, mais bon, c'est surtout que c'est pas non, spécialement un grimpeur normalement, mais bon.
Allez, place à l'équipe australienne Jayco Alula, où on avait également sélectionné deux arrivées.
Ouais, j'avais choisi Eddie Dunbar. Moi, je pensais que le coureur pouvait jouer les top 10 sur un grand tour cette saison, et pourquoi pas lever les bras. Donc, vous allez voir que je suis, c'est un one-to-watch plutôt validé, mais pas pleinement, je suis pas pleinement satisfait. Il fait 7ème sur le Giro, donc très bien. Mais on va plus trop le voir après le Giro, il va disparaître des radars. Il aura quand même une petite 7ème place au général sur le Tour de Pologne, mais plus grand chose à se mettre sous la dent. Il s'est aligné sur la Vuelta, mais il a abandonné lors de la 5ème étape à cause d'une chute dans le fictif. Bref, il n'a pas réussi à lever les bras cette année, mais il a fait le minimum qu'on attendait de lui. Donc c'est pour ça, plutôt validé, mais pas pleinement satisfait. Et moi, j'espère qu'on va le voir encore progresser en 2024 et ce coup-ci lever les bras. Mais bon, je ne peux pas dire que c'est raté comme One to Watch parce que, je le répète, il a fait le minimum syndical.
De mon côté, j'avais sélectionné Filippo Zanna, qui est pour moi un One to Watch validé pour cette fois. C'était sa première saison en World Tour. Après être devenu champion d'Italie l'an passé, il a montré de belles choses tout au long de l'année, mais on retiendra notamment sa victoire d'étape en costaud sur le Giro face à Thibaut Pinot notamment et Warren Barguil de mémoire. Il a été aussi vainqueur du Tour de Slovénie, souvent à l'attaque en fin de saison et coéquipier de Yates. Et je pense qu'on pourra le voir dans le même rôle l'an prochain, peut-être un cran au-dessus. Pour moi, ça reste encore un peu difficile parce que certes, c'est un coureur très talentueux, mais il n'a pas non plus un potentiel monstre, j'ai l'impression. Et autour de lui, il y a quand même... Bah, typiquement un Yates ou même un Harper qui s'est pas mal dévoilé en fin de saison. Donc j'ai du mal à le voir encore plus haut que par rapport à ce qu'il a fait cette année. Mais c'est un très bon chasseur d'étapes sur les grands tours. Formidable grimpeur. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va faire pour sa seconde année en World Tour. On passe maintenant à l'équipe de Patrick Lefebvre, la Soudal Quickstep, dont on a beaucoup entendu parler en cette fin de saison.
Ouais, écoutez, moi j'avais choisi Julien Alaphilippe. J'avais dit qu'il était mort de faim, sacrément affûté. J'avais souligné que je voulais qu'il évite toutes ses chutes. Alors effectivement, c'est bien, il a évité plutôt les chutes cette année. J'avais dit que je voulais le voir glaner de nombreux bouquets. Bon, bah, quelques victoires en France sur l'Ardèche classique, une étape du Dauphiné. Je l'avais imaginé également peut-être remporter le Tour des Flandres. Il terminera 51e, donc c'est une disaster class pour ma part. Voilà, c'est triste, hein, ça me fait mal de dire ça, mais je crois que le temps est passé pour Julien. Mais néanmoins, je pense qu'il a de belles années en tant que baroudeur devant lui. Il faudrait juste ajuster et savoir s'économiser de temps en temps sur des efforts inutiles. Mais voilà, on l'a vu très à l'attaque sur le Tour de France, sans conclure. Il en a clairement trop fait. Mais il avait de bonnes jambes, donc moi j'ai clairement envie de croire en lui sur les années à venir en tant que bon baroudeur pour peut-être une équipe française. Mais voilà, ça sera sans doute plus jamais le Julien Alaphilippe d'il y a 3-4 ans, et il faut se rendre à l'évidence. Mais il pourrait très bien avoir une belle fin de carrière, un peu à l'image d'un Toro Shaft hein, dans un autre registre, mais Julien il a les jambes pour être un très bon baroudeur pour moi. Mais bon, sur le One to Watch de l'année 2023, c'est plutôt totalement raté pour moi.
Ouais, moi ce qui me fait rire, c'est surtout que typiquement, par rapport au physique, les gens disent que Burgodo, c'est le Julien Alaphilippe de Wish. Mais j'ai envie de dire, est-ce que Julien Alaphilippe ne serait-il pas lui-même le Julien Alaphilippe de Wish? Ça, c'est un autre grand débat qu'on pourrait avoir.
Oui, ça pourrait être un débat, c'est vrai. C'est dommage.
De mon côté, j'ai sélectionné Casper Asgreen. Après une saison qui était à oublier en 2022, on retrouve un Casper Asgreen que l'on connaissait, ou presque, dans le sens qu'il a encore du mal à retrouver tout son talent et à utiliser tout son talent, notamment sur les pavés, lui qui a gagné le Tour des Flandres en 2021. Mais on le revoit offensif, belle victoire sur le Tour de France, souvent à l'attaque. C'est sa dernière saison en 2024 pour lui du côté de Quickstep. Ah, peut-être encore un Scandinave du côté d'Uno X par la suite, à voir pour se relancer. Ça pourrait être une équipe qui pourrait être sympathique pour lui. Mais one to watch non validé malgré son top 10 de mémoire sur le Tour des Flandres. Je crois qu'il finit autour de 7ème, 8ème. Mais malheureusement, on en attend encore plus de ce coureur-là, comme de la Quick-Step de manière générale sur les Flandriennes. Mais malheureusement, ils sont passés encore à côté cette année.
Ouais, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'un transfert du côté du NoX me semble tout tracé pour lui. C'est clairement typiquement le genre de coureur qu'ils vont chercher. Donc.
Place maintenant à Bahreïn, où on a sélectionné quasiment deux coureurs avec le même profil. Je te laisse prendre la main directement sur ton One to Watch.
Pello Bilbao, je voulais le voir jouer les premiers rôles sur le Tour de France. Je voulais qu'il lève les bras tout au long de la saison, donc bah écoutez, pour moi ça reste réussi. Troisième du Tour de Nunder, une victoire d'étape. Quatrième du Tour de Valence, quatrième de l'UAE Tour. Sixième sur le Tour de France avec une victoire d'étape. Et deuxième de la Classique San Sebastian, donc pour moi c'est plutôt validé. Après je l'avais imaginé peut-être jouer les troubles faits sur les classiques flandriennes. Sur les classiques ardennaises, pardon. Alors là... Mais non, pas du tout. Donc, pour moi, c'est plutôt réussi. C'est vrai que sur le tour, j'aurais peut-être aimé le voir un peu plus haut. Mais voilà, il a réussi son tour avec les moyens qu'il avait en juillet. Donc, une victoire d'étape, c'est très propre. Et son top 6 reste satisfaisant.
De mon côté, j'ai choisi Santiago Buitrago, qui a confirmé son année 2022 et qui a montré qu'il avait encore un très bel avenir devant lui. Seconde victoire d'étape sur le Giro, top 10 au général sur la Volta en tant qu'équipier, mais globalement ça a été une très belle surprise tout au long de la saison, et notamment son podium sur Liège-Bastogne-Liège, où il prouve qu'il peut performer également sur les courses par étapes, mais surtout sur les classiques. C'est une année 100% validée pour lui, et il a su confirmer et saisir sa chance. Typiquement, personne ne s'attendait à le voir sur le podium sur Liège. On passe directement à une équipe française où je vais prendre directement la main sur mon One to Watch. C'était l'équipe bretonne d'Arkéa où j'avais sélectionné Kevin Vauclin. Il avait commencé sa saison à merveille en remportant notamment pas mal de petites courses françaises, pas mal de victoires aussi bien d'étapes que du co-général. Malheureusement, il a été blessé à la hanche et indisponible pendant près de 3 mois suite à son Tour de Romandie. Et il a jamais pu reprendre son niveau qu'il avait avant cette chute. Sa Vuelta est malheureusement à oublier, mais pour une seconde saison chez les pros, on note du très bon. Il faudra maintenant passer un nouveau cap en 2024 pour une première saison pleine, on l'espère, en World Tour.
Moi de mon côté, j'avais choisi Ewen Kostiou. Il a su se montrer sur des courses comme Paris Camembert où il finit 2e ou 8e de la Classique Besançon. Il fait une belle 6e place sur le championnat de contre-la-montre en France. Et après, il fait quelques places d'honneur. Donc pour moi, c'est prometteur. Il va seulement avoir 21 ans en novembre et aura sans doute un calendrier plus fourni en 2024. Pas de grand tour cette année. C'est dommage, mais il a le temps. Bon, c'est une phrase classique que l'on entend beaucoup trop en France. Hein. Il a le temps. Donc voilà, après je vais pas dire que c'est raté ou que c'est réussi comme one to watch, c'est vraiment entre les deux dans le sens où il va chercher des belles places d'honneur à droite à gauche sur des courses à l'international. Pas non plus de grands résultats, mais ça reste prometteur.
Non, pour une première saison tout simplement en tant que professionnel, ça reste une bonne saison pour sa part. Je le trouve même un peu dur, franchement moi je te l'aurais validé ton one to watch. Mais globalement, il a montré quand même de belles choses, il était souvent à l'attaque et ça fait partie des coureurs français, comme tu l'as dit, qui ont un très bel avenir sur les courses d'un jour. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va faire l'année prochaine. On passe maintenant à Intermarché où tu avais sélectionné encore un petit Frenchie et je ne parle pas de Lilian Calvegen.
Ah évidemment. Qui de toi et moi aurait voulu ? Bref. Moi je dirais réussi puisqu'il a enfin gagné chez les pros sur le Tour du Limousin. Il fait tout au long de la saison de nombreux podiums et top 5. Il poursuit sa progression et n'oublions pas qu'il n'a que 22 ans. J'ai l'impression qu'on parle du copage depuis quelques années déjà, mais il n'a que 22 ans. Alors certes, j'aurais aimé deux ou trois autres victoires en plus pour qu'il prenne du poids dans l'équipe, mais il a clairement montré tout son potentiel et espérons qu'il pourra continuer à jouer sa carte parce qu'on sait qu'il va encore évoluer physiquement, il va prendre en plus de l'expérience dans les sprints, donc ça pourrait être un très bon coureur français dans les années à venir. Donc moi, je dirais plutôt réussi.
Ouais, Hugo Page qui a très bien commencé sa saison sur le en Australie où il avait fait quelques podiums, notamment sa deuxième place sur la classique Cadel Evans Great Ocean Race, l'accent c'est cadeau. Peut-être je m'attendais un peu mieux de sa part sur la Vuelta, dans le sens où il n'y avait pas non plus deux gros sprinters, mis à part Caden Groves, et je m'attendais peut-être, ouais, un peu mieux, genre au moins un podium sur une étape. Il n'est pas passé loin sur la dernière à Madrid, mais honnêtement, comme tu l'as dit, on va pas être trop sévère non plus. Pareil, c'était sa deuxième saison chez les pros, il a seulement 22 ans. Il a encore de belles choses à montrer, et typiquement dans une équipe où un Girmay a du mal, bah, c'est un coureur qui au final peut saisir sa chance, dans le sens où il a un profil assez similaire à bien passer tout ce qui est pavé flandrienne et à une belle pointe de vitesse au sprint. Donc attention Bignam, il y a Hugo qui pousse. Et de mon côté, j'avais sélectionné Lorenzo Rota. One to watch pas validé, hein, dans le sens où quelques belles places tout au long de l'année dans une équipe où il avait vraiment la place pour s'imposer en tant que leader, mais à l'image de sa presque médaille mondiale en Australie, cette saison, bah, c'est des regrets de pouvoir en faire plus, quoi. Pas de victoire, moins bonne saison que l'an passé, alors que toi, un coureur que tu as totalement validé, c'est pour Alpecin, où très très belle saison, quoi.
Ouais, et Caden Groves, très belle saison. J'attendais de lui qu'il lève au moins les bras 3-4 fois en World Tour, et c'est totalement réussi, hein. Il aura juste mis un tout petit peu de temps à lancer sa saison. Comparé à d'autres sprinters, il gagne deux étapes seulement fin mars sur le Tour de Catalogne. Après, je veux dire, saison lancée. Une victoire d'étape sur le Giro, et surtout trois étapes sur la Vuelta, tout en ramenant le maillot à point. Donc franchement, très belle saison pour l'Australien qui aura su faire son trou du côté d'Alpecin. Ça aurait pu paraître compliqué en début de saison, mais on n'avait aucun doute sur ses capacités. Saison totalement réussie.
T'en empêche, t'imagines, dans ton équipe, t'as Caden Groves et Jasper Philipsen. Ouais, c'est tout de suite plus facile la vie, hein.
Ouais, clairement. T'as beaucoup d'options.
De mon côté, j'avais sélectionné Quinten Hermans tout simplement parce que j'avais déjà bien eu un œil sur lui en 2022, notamment avec son podium sur Liège-Bastogne-Liège. En 2023, on s'attendait à ce qu'il passe un cap, pourquoi pas qu'il soit leader sur les Ardennaises et qu'il puisse vraiment jouer presque un rôle de leader dans cette équipe qui, certes, a beaucoup de couteaux suisses, mais n'a pas non plus le coureur pour les Ardennaises. Je parle notamment, bah, typiquement, ils avaient un Søren Krag Andersen qui devait se retrouver, ou même un Van Der Poel typiquement sur une Amstel. Mais globalement, il n'y a pas non plus le coureur qui passe bien les bosses, et Quinten Hermans aurait pu être ce coureur. Malheureusement, il n'y a rien à retenir de sa saison. Il a été utile aux victoires de Philipsen sur le Tour. Aucune échappée de sa part, j'en attendais quand même beaucoup plus, et comme dit, saison ratée.
Allez, on va enchaîner aussi sur une de mes disaster class, hein, parce qu'il n'y a pas que toi, Luca. On va parler de l'équipe IF, où j'avais choisi Richard Carapaz. J'en attendais beaucoup de lui, j'attendais minimum top 5 sur le Tour, et même le voir prendre des risques pour jouer la gagne, et pourquoi pas jouer des victoires d'étape sur la Vuelta, mais bon. Discret début de saison, hein. Il va remporter une course le Mercantour, et après rien à se mettre sous la dent, que ça soit les étapes ou les classements généraux, rien. On se souvient, il a abandonné sur chute sur le Tour de France dès la deuxième étape. On va le voir revenir un petit peu en fin de saison avec des top 10 sur les classiques italiennes. Alors est-ce que c'était la forme ou sa fraîcheur qui a fait ça, je ne sais pas, mais clairement saison à oublier pour Carapaz, qui n'aura rien réussi. Certes, il lève les bras une fois, mais personne ne s'en souvient, et une saison vraiment blanche pour l'équatorien.
Ouais, saison blanche, surtout, bah, un manque de chance, ouais, parce que sur la première étape, il chute avec Enric Mas. On se rappelle tous de sa chute en direction de Bilbao. Bah, c'est juste décevant, parce que comme dit, il y avait quand même des bonnes choses en fin d'année sur les classiques italiennes. On l'a vu qu'il était quand même présent, mais c'est dommage parce que dans une équipe comme EF, qui a ultra performé tout au long de la saison, on aurait aimé le voir bah, plus à l'avant. Et malheureusement, bah, saison un peu compliquée pour lui. Saison également compliquée pour mon one to watch, si ce n'est bah, saison aussi un peu oubliée. Andrea Piccolo, toujours à la recherche d'une première victoire professionnelle. Sa saison 2023 n'était pas dans la continuité de l'an passé. Le jeune Italien était beaucoup trop irrégulier. Et je pense que plus la saison aussi avançait, plus il jouait un rôle d'équipier dans une équipe souvent ultra performante autour de lui. L'an prochain, il aura 23 ans, il aura encore une longue carrière devant lui. Et c'est surtout sa première saison complète en World Tour. Donc je pense qu'il a quand même emmagasiné pas mal d'expérience. Et il pourra jouer, je pense, un rôle de second leader sur les classiques l'année prochaine ou sur les petites courses par étapes. Mais le problème, c'est que je trouve qu'il a quand même beaucoup de lacunes dans le sens où il n'excelle pas dans un domaine. Et même si c'est un très bon puncher sprinter et qui a de très belles compétences aussi en chrono, parce que je crois qu'il avait fini sur le podium des championnats du monde en junior, malheureusement il n'a encore jamais montré chez les pros qu'il était un bon chronomène. Donc comme dit, c'est saison un peu ratée, tellement ratée que je me projette déjà pour l'année prochaine et c'est dommage. Bon, c'est déjà la dernière équipe. C'est déjà la dernière équipe pour ce débriefing de nos One to Watch pour 2023. Je te propose qu'on parle d'une équipe qui va faire parler d'elle l'an prochain, mais qui est toujours l'une des plus grosses équipes mondiales. On va parler de Bora Hansgrohe. Et pour cela, je te laisse nous représenter ton One to Watch par rapport au début d'année.
Ah, c'est vrai que j'avais cru jouer simple en choisissant Alexander Vlasov, mais bon, je pense que j'aurais pu être plus inspiré. C'est ça, des fois, on veut jouer trop facile et finalement, on se loupe. Il avait quand même fait un bon début de saison, hein, 5e sur le Tour de Valence, 9e sur Tirreno Adriatico. Il était sur le Giro et il a abandonné sur la 10e étape, car malade. Rien sur les classiques, il va faire une 7e place correcte sur la Vuelta et de bonne place sur les classiques italiennes, mais pour moi c'est un one to watch raté parce que j'en attendais plus. Il est clairement en deçà de ses capacités, on l'attendait plus solide cette année et ce fut juste pas le cas. Donc bon, c'est pas une saison catastrophique, hein, mais clairement en deçà de ses capacités. Donc vis-à-vis de mes attentes sur Vlasov, c'est plutôt raté quand même.
Oui, raté, mais j'ai envie de te dire que t'aurais pu choisir Viktor Koretsky, donc je te trouve que t'as fait le bon choix.
C'est vrai qu'il y a quelques années, j'aurais choisi Viktor Koretsky, mais je me suis abstenu cette année.
Et tu as très bien fait. Allez, moi de mon côté, cette fois-ci, enfin un one-to-watch réussi, parce qu'en plus de ça, ça reste ma pépite, la pépite de tout un peuple. Le coureur que Remco Evenepoel rêve d'être. Et oui, je parle bien de Jan Ulsterbrux. Tout simplement, c'est un crack, quoi. Vainqueur l'an dernier du Tour de l'Avenir. Il a montré de quoi il était capable chez les grands pour sa seconde saison en World Tour. En décrochant, une magnifique 8e place sur la Volta pour son premier Grand Tour. On l'a vu à l'attaque et aux avant-postes tout au long de la saison. Tour de Suisse, Tour de Romandie. Et ça fait plaisir parce que c'est un coureur qui est très intéressant à suivre. Ça s'est parti un peu en friction sur la Volta avec Vlasov en interne. Il y avait des rumeurs comme quoi il pouvait potentiellement partir chez Groupama l'année prochaine pour se faire une place dans une équipe qui compte désormais Roglic, Vlasov, Daniel Martinez. Mais faut pas oublier que c'est un classe 2003, il a seulement 20 ans, il a un avenir flamboyant devant lui. Après 2024, ça sera la dernière année au sein de Bora pour lui. Je pense que si il n'a pas un rôle de leader typiquement sur le Giro qu'il va participer en 2024, je pense qu'il y a de fortes chances de le voir quitter la formation allemande. Pour quelle équipe, ça, on ne le sait pas encore. Mais ça va, enfin, honnêtement, c'est un décor qui a été passionnant à suivre parce que c'est un crack. Et tout simplement, hâte de voir ce qu'il va faire à l'avenir. Allez, c'est tout du coup pour pour ces One to Watch, pour ce débriefing de nos One to Watch qu'on avait sélectionné en début d'année. Pas mal de disaster class cette année, quelques petits cracks qui ont confirmé. Et je vous propose tout simplement qu'on remette ça l'année prochaine et on se dit à très vite. Passez une bonne journée et ciao ciao.
Ciao ciao.